Ça va, le monde.
RFI vous invite à un cycle de lecture organisé avec le Festival d'Avignon et soutenu par la SACD.
Un jour ou l'autre, il fallait bien qu'on en parle, et comment faire sans ? Dans ce cycle de lecture enregistré au Festival d'Avignon, rares sont les auteurs qui parlent d'amour. Eh bien, cette absence est comblée avec le texte de l'auteur Yannick Lahens, « L'oiseau par cœur dans la nuit ». L'histoire d'une passion racontée par l'un des plus grands auteurs d'Haïti, récompensé l'an dernier du prix Femina pour « Bain de lune », roman publié chez Sabine Weisspisser. Port-au-Prince, les Harara, la lutte des Noirs pour leur dignité, l'amour, l'absence, le jazz, la mort... Tout l'univers de Yannick Lahens est contenu dans ce texte qui, à l'origine, était une nouvelle, mais qu'elle a adaptée pour Avignon et pour RFI. Dans la nuit, en écoutant Charlie Parker, alias Bird, une femme se confie à une assemblée silencieuse et raconte donc cette histoire d'amour pour un musicien de jazz rencontré à New York. Sous la direction de Catherine Boskowitz, cette femme, sans nom, a la voix et le regard si bleu, presque océan, de la comédienne Mireille Perrier.
Les mots à l'autre bout du téléphone sont tombés ce matin comme un couperet. Je me suis pourtant bien gardée de tout bruyant étonnement ou de quelque tonitruant chagrin. C'eût été déchoir que de me répandre, là, devant les autres. C'eût été vous trahir. Je reste sur ce bel orgueil, sur ce dur secret. C'est à vous et à vous seul que je veux me présenter. Sans courage, sans retenue, sans espoir de consolation. Dans l'affolement de vous manquer à ce dernier rendez-vous. Je m'offre à votre regard, où que vous soyez. Car je veux vous parler d'amour. Oui, d'amour. À vous écrire, je sens monter en moi une émotion chaude battante comme un cœur. Mais écoutez-moi. Écoutez-moi. Je n'ai pas cherché à débroussailler le pourquoi de votre geste. Je n'ai pas non plus tenté de dresser la longue litanie des réponses mal assurées, préférant me laisser lentement pétrifier de songes. Oui, de songes. Je vous ai si souvent inventé des mains de rêve, une bouche de fable, un corps de songe. Vous souvenez-vous de ce soir de décembre ? Écoutez-moi. Écoutez-moi avec cette oreille qui vous ouvrait ces portes du monde dont vous nous souffliez les couleurs, les lumières et les ombres dans vos notes blessées, déchirées et si belles. Seule votre écoute me tiendra en équilibre au-dessus de ce vertige que je fixe depuis que je vous ai rencontré. Depuis que j'ai appris à m'accrocher pour tenir au-dessus de l'absence comme d'un vide. Comment ne pas vous écrire ? Une de ces lettres infinies, éternellement recommencées, auxquelles j'ai pris goût tout au long de ces années. De peur que me remonte à la bouche la saveur aigre des regrets. De peur que l'absence dise son dernier mot. Un mot étrange et sans appel, à la laine large et salée de la mer, ou peut-être aux lettres de feu qui me brûleraient le sang une fois pour toutes. Comment ne pas vous dire que j'ai traîné votre image tout au long de ces années comme un soleil endeuillé ? Mais vous savez aussi que j'ai trop de soleil en moi pour oublier de mordre à la vie. Vous aimiez mon grand goût de la vie. Ma faim dévoreuse de la vie. J'avance au-dessus du fil tendu par votre absence et j'avance encore. Je n'ai pas assouvi toutes mes fins. Vous souvenez-vous de ce soir de décembre? Cela faisait des jours que Myriam projetait de réunir ses amis à l'occasion du passage dans notre île d'un groupe de musiciens de la Caraïbe et de New York. Nous nous étions tous donné rendez-vous dans cette maison au bord de la mer. Je n'étais pas certaine de pouvoir répondre à l'invitation, craignant d'être retenue par une de ces obligations que l'on dit familiales et auxquelles on souscrit quelquefois comme on va à la pendaison. Mais je m'étais, Dieu merci, libérée sous le coup de 8 heures et j'avais fini par vous rejoindre avec tout un brin de retard. Myriam ne remarqua pas tout de suite mon arrivée. Elle aidait les musiciens haïtiens à installer avec leurs invités de la Caraïbe et de New York les instruments et avec Myrto et Annie mettait la dernière main aux préparatifs pour le bar et la nourriture. Elle nous avait d'ailleurs prévenus. Ce soir, je ne sers personne. Je ne serai là que pour la musique. Vous vous servez seul. J'évitais d'aller du côté des musiciens, ne voulant pas être soumise au feu des regards haineux de Maurice, le guitariste. Je venais de lui signifier quelques jours auparavant que je mettrais fin à notre histoire. Mais peut-on parler d'histoire? Et un homme a souvent du mal à croire qu'une femme le quitte. Surtout un homme d'ici. Mais l'évidence avait fini par tomber sur lui comme la foudre. Quand, en me demandant les raisons d'une si soudaine rupture, je lui avais simplement répondu qu'il n'y en avait pas et que pas de raison était une raison qui se suffisait à elle-même. Myriam, en m'apercevant de l'autre côté de la salle, ne se contenta pas de crier mon nom. Elle laissa tomber ses musiciens et courut vers moi pour me remercier d'une chaude accolade d'être venue. Je m'en allai vers le bar, sentant par moments, comme un projectile, le regard de Maurice dans mon dos sur ma nuque. Devant ce bar, j'hésitais, ne sachant pas exactement quoi commander. Mais je finis par opter pour un Cuba Libre. J'insiste sur ce détail, car j'avais tout juste 20 ans, et essayer mes premiers alcools. Rhum ou whisky sur glaçon avec un zeste de citron et une cuillerée de sucre de canne. Rhum punch, amaretto sour ou mojito. Mais je n'étais pas à une métamorphose près puisque je venais de troquer quelques jours auparavant le poster d'une idole de mes 16 ans contre une photo du Che que j'ai gardée longtemps suspendue au-dessus de ma table de travail pour éviter de garder l'âme en rade. Je sais depuis que la vie nous emmène toujours au plus difficile, au plus violent, au plus douloureux, mais aussi au plus doux, au plus clair, au plus... Alors, je prends tout. Oui, tout. C'est ma seule grâce devant le monde, et toute grâce se paie au plus fort. Il m'arrive d'être ivre de cette liberté-là. Mon verre rhum sourd à la main, je m'étais dirigée vers la véranda. Assise à côté, sur un canapé, Annie et Myrto étaient absorbées dans une de ces conversations dont elles ont encore le secret. Annie redemandait à Myrto pour la 10e fois si la couleur de sa mini-jupe et de son corsage la flattait, tout en s'examinant de la tête aux pieds. Myrto était, quant à elle, préoccupée par sa coiffure, qui, selon elle, n'allait plus tenir si elle continuait à danser et à transpirer. Parce qu'Annie et Myrto ne concevaient pas le monde au-delà de leur 1m65 ou de leur 1m70 de taille et des mensurations de leurs seins et de leurs hanches. La famine, les insurrections, les coups d'État et les révolutions, c'était trop compliqué, ou trop loin, ou les deux à la fois. Pourtant, à 2 mètres d'elle, je savais, à les observer, que Maurice, Gaëtan et André refaisaient Haïti et le monde. Je les rejoignis et me tus. Gaëtan m'avait depuis quelque temps admis dans ce cercle. Il y avait entre Gaëtan et moi cette complicité que les ans n'ont jamais marquée d'une seule ride. Leurs mots traçaient un chemin lumineux dans les labyrinthes de mes silences. Je les écoutais l'âme tendue, les oreilles aux aguets. Le frère aîné de Gaëtan avait été arrêté et tué quelques semaines auparavant dans une embuscade, dans le sud de l'île, avec une poignée de paysans, et Gaëtan s'apprêtait à partir à l'étranger sous un nom d'emprunt. Et je m'accrochais à Gaëtan, mon ami, mon complice, parce que je savais qu'à cette époque, un départ pouvait tout signifier. Et surtout, vous l'avouerez, l'époque valait son pesant d'or. Armstrong venait de poser les pieds sur la Lune. Le même Che Guevara essaimait son rêve dans la cordillère des Andes. Tandis que Barnard réussissait sa première grève du cœur. Eldridge Cleaver, jeune noir fou d'égalité, écrivait « Soul on Ice » de sa prison californienne, empruntant les mêmes sentiers ahuris où le free jazz avait emmené le bebop. On ne saurait mesurer les déraisonnables équipés de poignées de jeunes dans les faubourgs et les montagnes de notre île qu'à l'aune de cette démesure. À chaque époque, sa jeunesse et sa démesure. Aujourd'hui, comme les générations avant nous, nous avons laissé le mal avancer à pas feutrés. Sous couvert de l'innocence des braves gens, de l'aveuglement des bien-pensants qui n'ont que quelques mots à la bouche. Dieu, le divertissement léger et l'ordre immuable des choses. Vous ne supportiez pas le mal. Vous avez gardé ce cœur de 16 ans dans une enveloppe d'homme qui, lui, accumulait les années et les blessures. Vous ne vous êtes satisfait d'aucune réponse. Vous avez toujours tenu votre impatience serrée contre votre douleur. Jamais vous n'avez trouvé de réponse et vous vous êtes maintenu dans l'inquiétude de la question. Peut-être n'avez-vous pas pu supporter ce qu'est devenu le monde, et devant lui, vous n'avez même pas su quelles questions formuler. Ce monde, avec ses identités qui nous enferment, à mesure que les images nous rapprochent. Ce monde qui va trop vite. Quand les Twin Towers sont tombés, vous m'avez fait ce mot laconique. Il n'y a pas un axe du mal. Le mal nous traverse tous. Il est toujours amené de tous les côtés par des braves gens qui partent tuer pour des raisons simples, des certitudes démesurées. Le monde deviendra irrespirable et les identités auront une couleur de mort. Vous avez ajouté, comme si ce n'était plus essentiel, que vous veniez d'enregistrer un dernier album. Vous aviez repris cet air de Charlie Parker que nous avions écouté en boucle dans cette chambre. À New York. Blues for Elise. Je me souviens de ce séjour avec vous dans cet hôtel à New York. Des heures auxquelles je pense encore dans une stupéfaction incrédule. Le jour, nous demeurions dans notre chambre, ne la quittant que la nuit. New York est une ville où l'on peut boire, manger, danser à n'importe quelle heure de la nuit. Alors, nous avons retourné l'ordre du temps et vivions dehors la nuit. C'était en septembre. Vous marchiez dans les rues à large foulée. Un pull-over bleu ciel sur une chemise blanche. Une casquette grise qui vous faisait des yeux sombres et ce regard de demi-sommeil. Nous avons reçu la visite d'un seul de tes amis, Travis, qui nous regardait ahuris par ce qui émanait de nous. Notre désir était bien plus bavard que nous. Dans cette chambre de jour, nous parlions de tout, sans choisir. De la musique, de Dieu, de nous, de l'histoire, de notre enfance. Nous avons aussi lu, je m'en souviens encore, des passages de Baldwin. La prochaine fois, le feu. À haute voix, vous me lisiez des passages entiers. La discrimination fonctionne parce qu'il y a naturalisation, essentialisation, oubli de la dimension historique et politique des rapports de pouvoir qu'elle implique et qui, loin d'être naturels, sont construits. Vous, noirs, êtes enfermés dans un univers qui n'a élaboré aucun terme pour votre existence, qui ne vous a réservé aucune place. Ce jour-là, j'ai compris votre colère, votre musique, le désespoir qu'on entendait dans la musique de Charlie Parker, qui portait trop de douceur en lui pour un tel désespoir, qui s'en est allé à bout de force, épuisé par ce trop-plein. Celui qui l'a retrouvé mort dans un caniveau a cru qu'il s'agissait d'un homme dans la soixantaine, alors qu'il n'avait que 35 ans. Certains désespoirs dévorent goulûment les jours. Difficile de tenir longtemps avec de tels hommes. Difficile de vivre avec vous. La vie dans vos parages, Jordan, était loin d'être de tout repos. Vous demeuriez inaccessible, même dans la plus claire proximité. Et plus vous m'échappiez, plus je me faisais moi-même réfractaire à toute prise. Je fixais votre vertige pour tenter de vous tenir la main, mais je ne voulais pas sombrer avec vous. Nous étions devenus maîtres dans ce jeu-là. Mais revenons à cette grande colère qui vous habitait. Les mots dans votre bouche tordaient chaque muscle, chaque tendon, chaque nerf de votre corps. Vous avez longuement évoqué votre enfance, moi la mienne, et ce que nous ne savions pas l'un de l'autre, nous l'inventions. Palpitant, submergé par un fleuve de jouissance aveuglante, nous défaisions tous les nœuds, peau contre peau, dans un voyage qui nous emmenait dans un lieu plus nu que l'enfance. Moi, je voulais rattraper ces longs mois à l'abri de tout désir, loin de toute peau. Je voulais de vous, et de vous seul. Je venais de quitter mon premier conjoint, vous étiez à nouveau libre, vous aussi, et je rêvais de vivre un nouvel amour. Je me souviens de ces jours heureux où chacun de vos gestes était un naïf transport amoureux, une prière maladroite pour être aimé. Je me souviens d'avoir descendu les jours en bateau, moi noué à votre mât, vous à mes sources. J'ai traversé votre corps dans la douceur et dans la houle. La fenêtre est ouverte. Je suis montée me coucher tôt, mais je n'ai pas sommeil. Mes insomnies m'ont toujours tenue compagnie. Silencieuse, fidèle et attentive, comme des amis. Je sens leurs mains sur mon épaule. La lune danse entre les doigts des palmiers. Le souvenir vert comme un arbre n'a pas pris de l'âge. J'aurais voulu redevenir pour vous distraite, gaie, libre, et belle à regarder, comme ce soir de décembre. J'aurais voulu que ce décembre soit en moi comme une éternité. Mais il n'y a jamais eu en moi ni avril, ni août, ni décembre. Rien qu'une saison d'impatience. Aujourd'hui plus qu'hier, moins que demain, j'ai le mal de vous. Plus fort, plus loin, plus long. Je voudrais en ce moment même que vous aussi, vous me caressiez l'épaule. Y a-t-il quelqu'un à côté de vous? Vos mots avaient été plus chantés que dits. La voix était chaude et légèrement cadencée comme un air de blues. Peut-être était-ce dû à votre accent d'anglophone. Je me suis cru dans un film. En me retournant, j'ai rencontré votre visage. Vous n'êtes point de ces hommes dont la beauté arrête, mais ce manque a décuplé chez vous cette aptitude à être terriblement présent. La lumière oblique et légèrement tamisée du lieu adoucissait deux yeux qui semblaient traversés d'incendie. Au commencement est le regard. De même que Dieu commente le monde avec le Verbe, cette chose banale et si commune entre un homme et une femme commence avec le regard. Et le vôtre était ténébreux et splendide à la fois. Aujourd'hui encore, vos yeux n'ont pas fini de m'atteindre. Je cherchais une contenance dès que vous les posiez sur moi, arrangeant une mèche de cheveux, croisant la jambe d'un côté, puis de l'autre. Vous me regardiez sans arrêt et je commençais à manquer d'air. Mon rire léger était le masque d'une crispation, la lucarne salvatrice pour échapper à l'asphyxie qui menaçait, sinon ma vie, du moins ma raison. Aucune des hypothèses que je m'évertuais à échafauder à votre sujet ne tenait la route. Et à m'égarer dans tant d'incertitudes, j'eus conscience de l'imminence d'un danger. Je l'ai chassé pour avancer seul au milieu des vents. J'aimais déjà approcher ce feu contagieux. Bien sûr, j'avais déjà perdu la maladresse, l'effarement de l'enfance, et à la place s'était installé cet ahurissement d'être depuis peu une femme. Vous aviez quitté depuis bien longtemps les incandescences du jeune âge, cette arrogance du corps, cette provocation puérile que certains hommes, à défaut d'accomplissement d'eux-mêmes, prolongent dans l'âge mûr. Désolé, mon ami revient. À cause du désolé, sur lequel j'insistais de manière très appuyée, vous n'aviez pas osé vous asseoir et vous vous êtes dirigé vers le bar et vous avez commandé à boire. Annie et Myrto me surprirent absorbés à vous épier. Myrto cligna de l'œil et Annie leva un pouce en signe d'admiration. Je ris à gorge déployée et si fort que vous vous êtes retourné. Et quelques minutes après, votre verre à la main, vous êtes bien sûr revenu à la charge. Vous vous êtes penché à mon oreille et vous m'avez dit « Je m'appelle Jordan ». Je répondis sans grande conviction et demandai à Robert, le pianiste du groupe, de me faire danser. Vous m'avez regardé danser sans perdre un seul de mes gestes. Moi, je vous observais par intermittence, comme un guetteur dans l'ombre. Et au moment où je regagnais ma place, vous avez allongé le bras et avant même que j'aie compris ce que vous faisiez, vous m'avez entraîné dans la ronde des danseurs. Tout s'est passé très vite. Je n'eus pas le temps de refuser. Mais le voulais-je? Nous avons, vous et moi, dansé ensemble pour la première fois. Vous avez un corps fait pour la danse et l'amour. Nous avons d'abord dansé une rumba et des gormes chanté « Besame, besame mucho » réclamé à grands cris par ces jeunes garçons pétris à la glaise caraïbe. Vous aviez du mal à suivre ce rythme caraïbéen. Alors très vite, nous avons accordé nos corps à un slow que nous dansions pour nous seuls. Vous vous êtes mis à fredonner à mes oreilles cet air de James Brown, « When a man loves a woman » et je souriais et je jubilais. Je tournais au milieu de la piste à peine pressé contre vous, ce cavalier que je sentais effronté sans insistance, légèrement enivré. Le rhum commençait son effet bienfaisant. Je trébuchais, mais curieusement, dans une force neuve. Vous avez éprouvé, comme vous me le direz plus tard, un immense plaisir à ce frôlement de rien du tout. Une fierté retrouvée d'adolescent à faire tourner une femme dans vos bras. Nous étions déjà, vous et moi sans le savoir, ou ne le sachant que trop, dans cette félicité des commencements. Mais j'ai toujours pris le soin d'entourer ce que nous fûmes, ce que nous sommes l'un pour l'autre, d'un feuillage de silence. de peur que ne résonnent dans mon dos, en cascade moqueuse, les rires des cyniques, ou que les bien-pensants me déclinent leurs vertueuses tirades, raides comme l'ennui. Gaëtan est le seul à qui j'avais confié il y a quelques années que de quelque côté que je vous regarde, vous êtes mieux que tout ce que j'ai connu, que tout ce que je connaîtrai. Il m'avait répondu, avec l'humour que vous lui connaissiez, que ma maladie était connue de la Révolution, que j'étais victime d'élucubrations fantasmagoriques de la petite bourgeoisie, et qu'en tant que femme, j'étais doublement aliénée, ce qui n'arrangeait guère les choses, que le peuple avait d'autres chats à fouetter. Quand je lui ai rétorqué en riant que j'aimais fouetter de ce chat-là, et que j'en redemanderais encore et encore, et que j'en offrirais même au peuple, il m'a répondu que j'étais bonne pour la rééducation, sans me préciser à l'époque s'il m'enfermerait dans un goulag, chez les Khmers rouges ou dans une prison de fidèles. J'ai encore devant les yeux le rictus de vos lèvres, humectant l'anche, les doigts légèrement agités touchant les clés et guettant comme un animal à l'affût le moment d'entamer cette première note et de vous y laisser emporter. Dans les oreilles, le feulement de votre saxophone déchirant l'air de toute la gamme des émotions qui faisait que je ne pouvais que vous suivre. Sur la peau, le rire cuivré, la plainte brûlée de toutes ces harmonies. Vous lanciez des notes d'or, des notes trempées de soleil qui se répandaient sur une route lumineuse et vous m'obligiez à voguer avec vous plus près du ciel, plus près du conclave des anges, vers votre vraie patrie. Vous buviez beaucoup, plus que de raison. J'allais le découvrir au fil des ans. Mais vous n'étiez pas de ceux qui se saoulent en compagnie nombreuse et tapageuse pour oublier qu'ils sont passés à côté d'eux-mêmes. Vous cherchiez dans l'ivresse ce paradis toujours perdu, tantôt dans des interrogations giratoires comme un derviche tourneur, tantôt dans ces pensées ombreuses qui enfonçaient des épines dans votre chair. Il ne vous est resté au bout du compte que ce désespoir convulsif, celui qui vous poussait à jouer avec le feu, à frotter votre raison à la déraison. Et vous vous êtes fait mesure ce visage érodé de trop de blessures qui forçait certains à se retourner quand ils vous croisaient dans la rue. Au moment de l'intermède, vous m'avez rejointe aux côtés de Gaëtan. Le temps pour lui de vous faire apprécier sa verve décapante. Et nous avons commencé à parler de tout, de rien, à écouter cette ignorance l'un de l'autre se transformer lentement, se défaire et se changer en une connivence qui nous clouait sur place. Nos têtes parfois se rapprochaient et se frôlaient. Nous ressemblions à deux jeunes bêtes qui jouent. Vous parliez et votre visage vieillissait ou rajeunissait selon vos propos. Et à l'intérieur de moi, le jour succédait à l'ombre, le froid au chaud. Vous parliez par moments avec une honnêteté calculée, une franchise déguisée. Du séducteur, vous aviez tous les travestissements et les atours sans en être tout à fait conscient. L'habileté, l'obstination et le charme. À combien de femmes aviez-vous fait ce numéro de jongleur ? Étiez-vous de ces hommes nombreux, aux désirs sans délai et toujours sans lendemain ? La vanité de me croire un instant unique balaya ces interrogations qui me remuaient le sang et les viscères. Autour de nous se tissa très vite la toile d'une jubilation contenue. Une atmosphère d'enivrement. Un enchantement nous maintenait enfermés dans un cercle. Nous avions beau chercher à être discrets, la prudence avait été depuis longtemps balayée. La lumière bavarde du désir nous trahissait. À nous regarder, tout œil averti pouvait déceler le signe de quelque chose d'inévitable. Vous avez recommencé à jouer. Tantôt les notes semblaient s'arracher de vous dans la douleur. Tantôt, vous teniez sur leur écume, agile, élancé, divin, comme un ange qui danse. Et vous aviez à nouveau endormi le monde autour de vous pour ne maintenir éveillé que la musique. Après, je m'en souviens, je n'ai plus fui votre regard. J'ai laissé mes yeux s'y fondre. J'ai laissé mes mains tout à côté de vous pour que vous les preniez chaque fois que vous en éprouviez le désir. Dans la nuit fraîche de décembre, votre corps implorait ce calme que les hommes exténués trouvent quelquefois dans le corps serein des femmes. Votre corps, avec une force et une liberté inouïes, implorait que je ne m'en aille pas, que je reste tout contre vous cette nuit-là, la prochaine, et toutes les autres qui devaient suivre. Personne n'a su depuis me toucher avec une telle liberté et une telle force. À croire que vous avez planté en moi, là, entre mes hanches, une sagesse qui sait mieux que moi ce que je veux, une sagesse d'avant l'arbre fameux, celui du bien et du mal. Et cela fait des années. Comment pourrais-je en faire le compte exact? Que souvent vous ensoleillez mes nuits. Des années que je vis quelquefois des jours pour rien, parce que sans vous. Même quand des lendemains d'amour se peuplent d'hibiscus et de flamboyants, que mes rêves d'humanité s'enflent de la chaleur du pain partagé, ou que l'enfance me rattrape dans la cadence et le gargouillis d'un berceau. Jordan, vous me hantez, et je ne vous laisserai pas vous en aller sans m'avoir écouté. Je n'ai d'autre abri que cette nuit, ces mots et mes souvenirs. Continuez de me pétrir le cœur avec vos mains, de m'apaiser avec votre voix, de m'éclairer avec votre rire. Restez là, tout près, le temps pour moi de me faire à l'idée que vous êtes déjà en voyage, vers une destination où vous trouverez enfin le repos. Je vais affronter le monde sans la force qui me faisait porter tes absences, sans la clarté de tes brèves apparitions. À l'un de vos rares voyages plus tard, vous avez entendu résonner une musique étrange à vos oreilles dans la nuit haïtienne. Je me souviens de ce soir où vous avez été tout de suite frappé par des tambours qui d'abord avaient résonné au loin, puis s'étaient rapprochés. Mais ce ne furent pas uniquement les tambours qui vous intriguèrent. Vous avez demandé le nom des instruments avant, les bassines, celui qui marquait le rythme d'un son métallique que vous aviez, semble-t-il, connu ailleurs en Amérique latine. Nous étions chez des amis. Vous m'aviez demandé ce que c'était que cette musique rythmée, lancinante, quelles étaient ces voix nasillardes. Suivez mes pas. Quand je vous ai expliqué qu'il s'agissait d'une bande de rara, une tradition carnaval rurale qui commençait dans nos campagnes avec le carême, vous aviez été immédiatement allumé par ces pratiques qui prenaient notre monde à revers. Et vous m'avez harcelé de quelques questions auxquelles je tentais, dans un anglais qui était encore loin de la fluidité, de répondre. Quelque chose dans votre regard exprimait un amusement et un brin de reproche pour la petite bourgeoise que j'étais et qui savait si peu de ce qui se passait dans le monde d'en bas. À votre légère provocation, je n'ai pas su quoi répondre. Non, vous n'alliez pas m'avoir aussi facilement. Mon léger courroux a redoublé votre amusement. Alors j'ai feint la passibilité. Et vous avez ri à gorge déployée. Au son du sifflet et du fouet qui se firent plus distincts à mesure que la bande de rara se rapprochait, vous n'avez pas résisté à l'envie de voir de plus près, de sentir, de toucher. Vous n'avez pas attendu toutes mes explications. Vous avez perçu mon inquiétude et vous avez ri à mon oreille. Vous m'avez caressé le menton et vous vous êtes levé sans mot dire, sans me prévenir, sans dire au revoir à quiconque, et vous êtes parti dans la nuit. Vous avez suivi les raras toute la nuit, dans les rues sombres de Port-au-Prince, dans la nuit grouillante du bas de la ville, vous arrêtant avec ces hommes et ces femmes au carrefour, buvant de l'alcool, du trempé d'anis, croquant des pistaches grillées et mangeant ces fritailles, fritures graisseuses et pimentées dont vous raffoliez. Vous avez tout de suite compris qu'il y avait une organisation précise et que derrière l'apparent chaos, il y avait un ordre. Vous en étiez ravi, vous qui vous acharniez à faire comprendre aux autres votre musique, qui était la musique la plus difficile et la plus organisée que vous jouiez, fidèle aux règles que vous vous étiez fixées. J'étais la première à être ahurie d'écouter de votre bouche ce que j'allais apprendre plus tard, que les raras ne sortaient qu'après un rituel de protection, que le drapeau était porté en avant par un initié, que le chef le suivait le sifflet à la bouche et le fouet à la main, qu'un jongleur maniait avec une dextérité époustouflante un bel objet métallique, que les musiciens soufflaient dans des instruments en bambou et que la reine était elle-même entourée de quelques assistantes et suivie du chœur, puis des vendeuses. Vous avez observé ces arrêts au carrefour pour demander au dieu, l'Egba, d'ouvrir le chemin. Vous vous êtes retrouvé dans les rues, dans les alliés, puis de nouveau dans les rues. La ville et la campagne se mélangeaient. Vous vous êtes engouffré dans ces jeux d'ombre et de lumière, parce que vous saviez si bien au fond de vous-même qu'il faut toujours un peu d'obscur pour mieux voir, que la lumière est un chemin. Vous avez suivi cette horde d'hommes et de femmes et dansé avec eux jusqu'à épuisement, jusqu'à vous écrouler sur une galerie au bas de la ville. Au réveil, des marchands d'amusés, pipe à la bouche, tête nouée, vous ont donné à boire du café. Magnotti café blanc. Vous n'avez pas compris que les mots café et blanc. Vous n'avez compris que les mots café et blanc. Et vous, noir du sud des États-Unis, militant du NACCP, vous avez pris une belle claque. Des call me blanc. Alors ce fut à mon tour de rire et de me moquer de vous quand vous m'avez demandé de vous expliquer. Et je vous ai répondu laconiquement qu'ici, tout noir que vous fûtes, vous étiez un blanc. Après quelques secondes d'étonnement, vous avez ri bruyamment en vous tapant les cuisses et m'avez répondu « Rien à faire, je reviendrai dans cette ville, dans cette île. » Pourtant, je n'ose pas vous parler du Port-au-Prince d'aujourd'hui, Jordan. De cette ville, de cette foule d'hommes et de femmes debout, serrés les uns contre les autres, tantôt dans des poses lentes, comme s'ils étaient encore dans un chemin de campagne désert, tantôt se frayant un impossible chemin en jouant des coudes. Foule sans famille, sans emploi, jeune, sans autre occupation que le vol, la bagarre, le meurtre. Du matin au soir, du soir au matin, ils regardent passer les voitures ou allongent le cou pour suivre les matchs de foot ou des gens à qui ils aimeraient ressembler, qui portent des t-shirts de marque des baskets de marque. Quand il bouge, c'est pour aspirer de l'éther dans des bouteilles en plastique, rançonner les passants imprudents trop distraits. Putain, cul-de-jatte, mendiant, voleur et assassin d'un jour, ou de plus qu'un jour, vendeur à la criée, pasteur vociférant dans des mégaphones, jeune assoiffé de beauté, la tête dans les nuages. Le mélange est ahurissant, vivifiant, tragique. Cœur sensible s'abstenir. Dans les beaux quartiers, les PDG de la drogue ou des trafics en tout genre ont fait perdre toute finesse, toute élégance, toute éducation à des lieux qui savaient encore. Il ne reste que cette jeunesse ardente qui tous les jours compte les doigts du soleil et font battre au tam-tam de leurs rêves le cœur de cette ville. Port-au-Prince me dévore et me nourrit, Jordan. Sa bouche a faim de tant de sourires, de vie, de sang aussi. Son appétit est mon vertige, mon soleil et ma nausée. Il me faut quelquefois garder les yeux clos pour la traverser et en sortir indemne, vivante et plus forte. Vous me manquez, Jordan. Vous me manquez. Tout compte fait, je sais très peu de vous, des villes que vous avez traversées, des étrangères que parfois vous avez aimées, des paysages que vous avez vus par la fenêtre de votre chambre. Mais il y a ce que l'on sait qui tient dans le creux de la main et ce que l'on sent qui est infini. Je vous ai revu une dizaine de fois au cours de ces longues années et à chaque fois surgissait en moi cette folle envie de tout recommencer juste à l'instant où vos yeux se sont posés sur ma vie, où ils y ont posé ce désordre radieux, et le faire vite, très vite, avant que la lucidité, cette longue dame aux yeux torves, ne pose sur moi ses doigts glacés. Je continue encore de te suivre aujourd'hui dans ton chemin lointain, les champs de lumière où tu marches le cœur léger, à grande foulée, comme dans les rues de New York. Mais ce soir, encore, dans le silence qui descend, les grands sentiments m'ont assiégé comme un feu ferait d'une ville. Si je veux tant vous écrire, c'est pour me baigner dans l'eau apaisante des mots, dans les premières eaux du monde, pour me ressourcer, reprendre des forces, ces forces en moi que j'ignorais avant vous. Vous ne lirez jamais cette lettre, mais peu importe. N'écrit-on pas souvent les lettres d'abord pour soi ? J'envie jalousement ceux sur qui vos yeux se sont posés en ce moment ultime. J'imagine les syllabes arrachées avec peine à vos lèvres sèches, le dernier mot, le dernier cri, le dernier rire que vous avez entendu. Vous avez avancé seul vers les portes de la nuit, me laissant perdu de l'autre côté. Mais la vie n'était-elle pas tissée de rendez-vous manqués ? Nous nous trompons souvent de ville, de carrière, d'amour. Quelquefois nous ratons même la mort qui nous sauverait. Les mots à l'autre bout du téléphone sont tombés ce matin comme un couperet. Jordan s'est donné la mort. Trévis avait la gorge nouée. Il a ajouté qu'il m'enverrait la cassette grise et la partition de ton arrangement de blues par Ellis. Vous lui aviez confié un jour que vous étiez certain de vous en aller avant moi et que lui, Trévis, devait se charger de me les faire parvenir. Comment avais-je pu douter une seule seconde que vous ne vous offririez pas ce dernier geste, que vous ne vous attarderiez pas avec vos viscères en bataille, que vous ne quitteriez pas ce corps désormais inhabitable ? La solitude ne vous lâchait pas, s'enrouler autour de vos tripes, de votre estomac, de vos bras, vous transformant en cet animal apeuré qui croisait dans ses voyages éveillés les visages de l'insomnie et de la peur. Assis à cet angle de votre chambre, souvent, vous attendiez un verre à la main, une cigarette au bout des doigts, le matin qui n'arrivait pas, piégé dans la nuit qui s'attardait jusque dans ces minutes avant l'aube, si poignantes, si terriblement absurdes et incolores. Cela faisait des années que vous ne connaissiez plus la paix de fermer les yeux sans anxiété. Votre absence a aidé à faire de moi ce que je suis devenue et qu'intimement je récuse quelquefois. Une femme d'eux, entre deux âges, deux fois divorcée et dont les deux filles ont grandi sans qu'elles s'en aperçoivent. Je sais que personne ne saurait suffire à ce besoin d'amour en moi. Personne. Je suis seule et toujours en chemin. À chaque rencontre, j'oublie tout de ce que je sais de ce manque qui m'habite et que je ne comblerai jamais. Mais votre place à vous, Jordan, est irréelle, intacte. La douleur affolée s'est enfuie très loin. Elle a rejoint pieds nus, en silence, ce jardin ensommeillé où reposent les chagrins d'enfance, les séparations et les deuils. Plus rien ne pourra l'atteindre. Mon âme est déjà scellée comme une tombe. J'attends de voir ce que votre mort fera de moi.
L'oiseau par cœur dans la nuit de Yannick Lahens, lu par Mireille Perrier sous la direction de Catherine Boskowitz. Ça va le monde, un cycle de lecture en partenariat avec le Festival d'Avignon et avec le soutien de la SACD dans le cadre de son action culturelle radio. Ça va le monde, présentation Pascal Paradou, réalisation Fabien Munuret et Mathieu Salabert, sonorisation Philippe Nadel. Des lectures radiophoniques à écouter tout l'été sur RFI et à retrouver en son et en vidéo sur RFI.fr. La semaine prochaine, un texte de l'auteur algérien Aziz Chouaki, Esperanza Lampedusa. Bon dimanche, bonne semaine.